Quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes. Bon mercredi, celui du 26 novembre 2025. Sans soleil, mais le soleil est devant moi. C'est Mathieu Tessier qui rayonne.
Oh!
Même si vous arborez un gilet noir.
Ah oui, mais des fois, il y a des lunes noires. Moi, je suis le soleil noir du Canalem.
Oui, le soleil noir. C'est chic, c'est chic. Ça pourrait être un titre de roman. Et celle qui rit, c'est Isabelle Falardeau qui a retrouvé sa voix.
Oui, quelque peu. Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous, très chère?
Ça va très bien.
Alors, vous êtes la digne représentante du trio ce matin. Daniel
oui,
Lachance.
C'est rare que c'est moi la seule. D'habitude, c'est moi qui tombe au combat, mais ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous.
Tant mieux. Habituellement, depuis quelque temps, vous êtes là pas mal régulièrement, Isabelle. Et j'en profite pour saluer notre ami Serge, qui devait être là, mais qui a passé une mauvaise nuit. Donc, il se repose aujourd'hui et on le comprend. Oui. Et on salue aussi Daniel Lachance, qui lui vient moins souvent, mais quand il vient, il se rend en studio. Et d'ailleurs, je vous fais la demande, Isabelle, pour la dernière avant le long congé. On aimerait que vous y soyez. C'est le 17 décembre. Écrivez ça dans votre agenda. Puis, vous n'êtes pas obligé de rien apporter à manger, là.
J'ai déjà commencé à regarder les recettes là, que je pourrais faire pour vous apporter quelque chose.
Alors, on n'est pas contre non plus. Alors, Isabelle, vous êtes dans l'alimentation aujourd'hui. L'agriculture urbaine.
Oui, on pose la question et on essaie un petit peu de répondre. L'agriculture urbaine pourrait-elle nourrir le monde? Donc, c'est une question qu'a posée David Ferrier dans le Guardian le 9 novembre 2025. Et donc, on nous parle du fait que des potagers familiaux à l'hydroponie de pointe, l'avenir de l'alimentation ne se limite pas aux zones rurales. Donc, comment est-ce que ça peut se décliner, l'agriculture urbaine, et à quel point ça peut faire une différence?
Très bon sujet. Merci beaucoup. On vous retrouve autour de 9h45. Aussi, au menu aujourd'hui, des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. De la belle visite, la visite rare, Christian Bégin, comédien et animateur, qui viendra nous parler du tout premier cabaret des artistes présenté par Le Devoir au profit de la Fondation des artistes, le 3 décembre au Théâtre Outremont. Christian Bégin sera avec nous autour de 10h15. Chronique musique classique de retour en compagnie de Chantal Lavoie, qui a plein de suggestions de concerts de Noël à nous faire. Alors, c'est pas mal ça. Je voulais aussi faire une mention du Collège Dawson qui vient de rénover le local 2H.02 pour mieux servir les étudiants et les étudiantes en situation de handicap avec des améliorations essentielles qui vont bien au-delà des besoins en mobilité. L'équipe a conçu une nouvelle salle de bain adaptée avec des barres de sécurité et de stabilité, un lavabo accessible en fauteuil roulant, un sèche-main, des distributeurs de savon ainsi que des fonctions de sécurité et des capteurs améliorés. La salle de bain se distingue par une superbe murale inspirée du Jardin de la paix de Dawson. Nous avons fait appel à quelqu'un de l'extérieur pour égayer le lieu. Les couleurs vives et l'imagerie pleine de douceur sont porteuses de joie et d'énergie. Elles rendent la pièce accueillante pour que les étudiantes et les étudiants s'y sentent à l'aise et en profitent pleinement. Nous voulions aménager un espace utile qui réponde vraiment aux besoins de la population étudiante, explique Christine Lister, qui est responsable du service d'aide à l'intégration des étudiantes et des étudiants, avec l'aide de Inoua Choua et d'Elias Hazard de l'équipe des ressources matérielles. Nos attentes ont été dépassées. L'objectif du projet, les étudiantes et les étudiants devaient sentir que l'espace leur était destiné, qu'il était accueillant et conçu de manière délibérée. Alors, c'est un espace qui comprend aussi une toilette. Afin d'agrandir la salle principale, l'équipe a abattu un des murs du fond. Résultat, plus de place pour aménager des casiers accessibles, des postes de travail individuels, des murs sensoriels, un éclairage à intensité réglable et des espaces de rangement. Alors, on salue cette initiative du Collège Dawson. La planification a débuté en mars. Les travaux ont commencé le 2 juillet et le local est accessible depuis le 18 novembre. Ce projet de rénovation illustre l'engagement de Dawson à aménager des espaces accessibles et inclusifs qui répondent aux différents besoins de la population étudiante sur les plans physiques, affectifs et scolaires. Pour débuter en chanson cette émission, Vous allez peut-être reconnaître la voix, je ne sais pas. Il s'appelle Irden Exantus. Vous le connaissez si vous suivez Antigang. De ce temps-ci, on le voit tous les jours dans son personnage de Philippe Desrosiers. Le voici dans une chanson, lui qui vient de lancer un album. Voici Danger.
On n'a pas peur du danger, même si leur masque tombe. Va leur dire que j'ai changé, ce soir mon masque tombe. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qui sont les vrais? Qui sont les faux? C'est qui nous fraude? Rien ne m'étonne, crois-moi. Détente, crois-moi. Même si j'ai perdu des proches, perdu des frères, j'ai connu l'enfer. Rien ne me stresse.
Les masques tombent, je vois que des sourires crispés. Montrer sa vraie nature ici, c'est risqué. Mais on a peur de rien, dans leur visage on rira. Si je prends la pose et fais chi, je le fais pas pour les rats. Nah, ils m'ont vu starve, pas même capable de me donner de l'eau. Et maintenant qu'ils voient que j'ai le juice, ils ont tous soif. Ils sont tous saves, ils rêvent de m'avoir sous le bout de leurs lèvres, comme les blancs avec le moins.
On a pas peur du danger. Même si leur masque tombe, va leur dire que j'ai changé. Ce soir mon masque tombe. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qui sont les vrais? Qui sont les faux? C'est qui nous fraude? Rien ne m'étonne, crois-moi. Je garde la détente, crois-moi. Même si j'ai perdu des proches, j'ai perdu des frères, j'ai connu l'enfer. Rien ne me stresse.
Deux pour le show, tout pour la famille, et rien pour les faux. J'ai dit un pour la monnaie, deux pour le show, tout pour la famille, et rien pour les faux. J'ai dit un pour la monnaie, deux pour le show, tout pour la famille, et rien pour les faux. J'ai dit un pour la monnaie, deux pour le show, tout pour la famille, et rien pour les faux.
Danger de Irden Exantus.
À la une du Journal de Montréal, une histoire épouvantablement triste, un voyage de rêve vire à la tragédie. Alors, dépeinte comme une femme qui vivait au maximum, une Québécoise de 48 ans est décédée au Népal lors de son voyage de rêve en Asie du Sud qu'elle préparait depuis 2 ans avec son conjoint. Julie était une personne qui aimait beaucoup la vie et qui inspirait les gens autour d'elle par ses actions et sa bonté. Maintenant, on veut que les gens vivent et réalisent leurs rêves en pensant à Julie, confie Jean-Marc Morlot. Le 4 novembre, ce dernier réalisait avec sa femme Julie Brazeau et 2 amis une randonnée au cœur de l'Himalaya, au Népal. Ils étaient parvenus à atteindre le camp de base de l'Everest, situé à plus de 5000 mètres d'altitude, un objectif qu'ils chérissaient depuis longtemps. On s'était entraînés super fort pour aller jusque-là et porter nos propres sacs sur notre dos. Elle était tellement fière, se souvient l'homme de 52 ans. La descente s'est toutefois avérée fatale pour la gestionnaire de projet pour Hydro-Québec. Alors que le groupe empruntait le chemin du retour, un léger éboulement de roche est survenu. Un caillou a pris une trajectoire imprévisible et a rebondi sur une roche avant de cogner la tête de Mme Brazeau. S'en sont suivis plusieurs transports en hélicoptère et en ambulance jusqu'à l'hôpital de Katmandou, la capitale du pays, puis un rapatriement à Montréal en avion-ambulance. Malgré les efforts des équipes médicales, la mère de 2 enfants est décédée le 14 novembre à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, d'une hémorragie interne du cerveau. C'était purement un accident. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'y avait rien de dangereux dans ce qu'on faisait, mentionne M. Morlot, qui assure avoir pris toutes les précautions nécessaires. C'est donc une histoire vraiment, vraiment triste racontée par Marianne Lafleur dans le Journal de Montréal. Et tout juste à côté de cette histoire, une autre histoire, cette fois-ci plutôt choquante, il fraude un couple atteint de la sclérose en plaques. Un fraudeur qui a escroqué un couple atteint de la sclérose en plaques au lieu de l'aider ira réfléchir pendant 18 mois en prison, une peine qui pourrait plus que doubler s'il ne lui remboursait pas 67 000 $. Charbel Fad avait rencontré Patrick Léger et Bouchra Crècherie en 2018 dans un groupe de soutien aux personnes atteintes de cette maladie auto-immune. La conjointe du fraudeur, elle-même, a la sclérose en plaques. À cette époque, M. Léger souhaitait poursuivre une société d'État en lien avec sa maladie. L'accusé lui a donc proposé de s'occuper du recours gratuitement, mais Fad a demandé à la victime de verser certains montants afin de financer les expertises de médecins et d'avocats dans son dossier, ainsi que des voyages. Plusieurs fois par mois, le Lavallois de 62 ans amenait M. Léger au guichet automatique de sa banque afin qu'il retire des sommes et le lui remette. Le stratagème a perduré 10 mois. En tout, Fad a volé plus de 72 000 $ au couple. La victime a dû vendre sa maison afin de rembourser sa marge de crédit. C'est dans le Journal de Montréal qu'on raconte cette histoire, signée Camille Payan. À la une du Devoir maintenant, les cyclistes du pont Jacques-Cartier devront attendre 2055. Marco Fortier, qui écrit que l'ambitieux chantier visant à sécuriser la piste cyclable du pont Jacques-Cartier entre Montréal et Longueuil est repoussé au moment du remplacement du tablier du pont dans 30 ans, en 2055. D'ici là, le gouvernement fédéral, propriétaire de cet ouvrage presque centenaire, envisage des travaux mineurs visant à améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons. Guerre en Ukraine, et si Washington retirait son soutien en Ukraine, cette menace a une nouvelle fois été brandie dans les derniers jours. Mise à jour économique, pas de chèque ou de baisse de la taxe sur l'essence pour les Québécois. Dans un mini-budget, le ministre Girard a annoncé mardi une baisse des dépenses en lutte contre les changements climatiques. Et puis à la une de la presse plus d'aujourd'hui, Parti libéral du Québec, crise au PLQ, la discussion qui aurait tout bousculé, un échange entre l'ex-chef parlementaire Marois Risky et le député libéral fédéral Faisal El-Khoury se retrouve sous la loupe du directeur général des élections. Ce serait l'élément déclencheur de la tourmente qui ébranle le Parti libéral du Québec. Hugo Dumas a vu le documentaire inoffensif « Mes implants », documentaire produit par Julie Snyder qu'on pourra voir lundi prochain à Radio-Canada et sur Tout TV lundi à compter de 20 heures. Dessins volumineux mais parfois dangereux, notre chroniqueur a vu le documentaire d'Isabelle Gaston. On revient aussi sur cette mise à jour économique. Il y a des chroniques à ce sujet de Francis Veil, de Marie-Ève Fournier et de Paul Journet. Et puis Nathalie Collard signe une chronique d'une itinérance annoncée. Un couple craint le jour où il ne sera plus là pour aider sa fille qui vit avec des troubles de santé mentale. Quelque chose d'organisé après notre activité.
De bord et la chanson Blood pareil.
L'agriculture urbaine pourrait-elle nourrir le monde? Un article que vous avez déniché dans The Guardian. Vous l'avez donc traduit?
Oui, en fait, c'est vraiment pas moi qui l'ai traduit, c'est l'intelligence artificielle.
Ah oui, c'est vrai, Google. Ça existe, ça, pour rendre ce genre de service.
Mais évidemment, j'ai quand même vérifié que l'information était fidèle au texte original. Donc, c'est ça, c'est un titre, un article que j'ai trouvé sur le Guardian. Et on commence par nous dire que la population mondiale s'élevait à 4,6 milliards d'habitants en 1982, mais d'ici 2050, elle aura plus que doublé. Et ça commence à devenir difficile de penser qu'on va pouvoir nourrir tout ce monde-là. Il y a déjà 2,3 milliards de personnes qui sont touchées par l'insécurité alimentaire aujourd'hui. Il y a toutes sortes de choses comme la COVID-19 et les phénomènes météorologiques extrêmes qui ont révélé la fragilité de notre système alimentaire. Et donc, c'est de plus en plus, on a envie de se tourner vers l'agriculture urbaine. D'ailleurs, la pandémie de 2019 a engendré un bref essor de cette agriculture urbaine. Il y a 8,37 milliards de dollars canadiens qui ont été investis dans les start-up d'agriculture verticale en 2021. Il y en a plusieurs, évidemment, qui ont fait faillite à la suite du confinement, mais... Il y a quand même plusieurs qui ont continué et l'idée elle-même persiste. En janvier, le gouvernement écossais, par exemple, a inauguré un nouveau centre d'innovation pour l'agriculture verticale qui est doté d'un budget de 3,35 millions de dollars canadiens. Il y a des fermes qui ont vu le jour dans des conteneurs maritimes à Brooklyn, dans des parkings souterrains à Paris, des abris anti-bombes qui datent de la Seconde Guerre mondiale à Londres et sur des toits de Hong Kong à Singapour, en passant bien sûr par Montréal. Et on nous dit que l'agriculture urbaine produit déjà entre 5 et 10% des légumineuses, légumes et tubercules mondiaux. Donc c'est quand même, c'est pas tant que ça, 10%, mais c'est quand même une bonne part. Et on nous dit que cultiver les terres en ville, ça améliorerait l'alimentation dans les pays du Nord et ça fournirait davantage de calories aux pays du Sud. Il y a une étude de 2025, donc vraiment récente, qui suggère que l'agriculture urbaine pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030 concernant la faim, les villes durables et la consommation responsable. Donc oui, on parle de nous nourrir, mais aussi de comment ça pourrait nous aider à nous nourrir de façon plus durable et responsable. Ça permettrait aussi de réduire les chaînes d'approvisionnement vulnérables et bien sûr les émissions de carbone qui sont liées au transport et à l'emballage des aliments frais. Il y a une étude un petit peu plus vieille de 2013 qui avait révélé qu'un kilo d'aliments cultivés à Londres produisait en moyenne 2,23 kilos de CO2 de moins que l'agriculture conventionnelle. Donc, évidemment, là, si on prend en compte non pas juste la façon dont c'est cultivé, mais le transport, etc., tout ce qui était impliqué dans cultiver quelque chose puis l'apporter à la personne qui va le manger à la fin. Et en plus de ça, cultiver la terre, c'est une activité profondément humaine. Donc, devenir à la fois producteur et consommateur, ça permettrait aux communautés de se développer et aux individus de s'épanouir. Et là, j'ai envie de faire une petite parenthèse rapide, mais importante, parce que Ça m'a fait penser vraiment à une initiative que je connais dans le sud de la France, à Saint-Clément-des-Rivières. Personne ne sait c'est où, là, mais c'est pas trop loin de Montpellier. C'est une personne que j'ai connue dans le cadre de mon d'un travail bénévole que je fais avec une application d'horticulture. C'est un maraîcher français qui a débuté une initiative, ça s'appelle l'Épicentre. Et entre autres activités, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont obtenu de la ville, de la commune française, d'avoir accès à un terrain et ils ont commencé à cultiver ce terrain-là et rassembler toutes les personnes de l'endroit qui avaient envie de participer. C'est devenu vraiment un espace communautaire, donc où on cultive ensemble, on récolte ensemble, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, dernièrement, ils parlaient de à quel point ils ont commencé leur première récolte là, cette année.
Qu'est-ce qu'ils cultivent?
Ils cultivent vraiment de tout, des courges, des piments, de la laitue, du chou, tout ce qui se mange finalement.
Et il y a combien de personnes qui vivent à Saint-Clément-des-Rivières?
Hey, c'est vraiment une super bonne question. J'ai pas pensé de vérifier. C'est une petite commune, mais quand même assez importante là, pour avoir ce gros terrain-là qui est fourni par la mairie.
En tout cas, c'est un beau projet à imiter, hein, Isabelle?
Ils parlent de familles qui ont récolté 400 kilos de légumes qu'elles ont plantés elles-mêmes.
Ah oui.
Donc, ils nous parlent de la dimension cognitive, de découvrir qu'on est capable, si au début, il y en a plusieurs qui ne pensaient pas qu'elles allaient pouvoir le faire. La dimension sociale, parce qu'on apprend ensemble.
L'union fait la force.
L'union fait la force. La dimension sociétale, ça rompt l'isolement. La dimension communautaire, parce qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait pas pu penser nécessairement rencontrer, des retraités, familles, nouveaux arrivants, travailleurs, etc., se rassemblent ensemble. Et évidemment, à la fin, on obtient quelque chose qui va nous aider à nous nourrir. Donc, ça a vraiment plein de bonnes choses, l'agriculture. Là, c'est urbain, semi-urbain, on va dire, mais c'est un bel exemple, je trouve. Et donc, évidemment, là, c'est pas si utopique que ça. C'est quand même important de reconnaître que l'agriculture urbaine, c'est pas une solution miracle. Si on fait de l'agriculture à plein air à proximité des routes, ça peut produire des polluants dans la chaîne alimentaire. Tandis que quand on cultive en intérieur, ben là, à ce moment-là, c'est extrêmement énergivore. Donc, il y a toujours des points négatifs de chaque aspect. On nous dit qu'une ferme verticale qui occupe un immeuble de 30 étages sur une surface de 2 hectares pourrait produire un rendement équivalent à celui de 971 hectares. Donc, c'est quand même important, là. Ça prend beaucoup moins de place si on cultive de façon verticale.
Mais quand vous dites une ferme verticale, ça veut dire quoi exactement?
Quand on fait de l'hydroponie, donc on cultive vers le haut plutôt que vers...
On s'étend moins.
Il y a plusieurs techniques, mais par exemple, si vous allez voir dans une serre, il y a beaucoup d'installations qui sont faites pour que les légumes puissent pousser en hauteur.
Ouais.
Mais évidemment, ça prend beaucoup d'aspects techniques, là, parce que l'alimentation du sol se fait... En fait, des fois, il n'y a pas de sol carrément quand on parle de serre.
J'ai demandé à IA, Isabelle, et on dit qu'une ferme verticale cultive des aliments en couches superposées à l'intérieur d'une structure fermée et contrôlée comme un gratte-ciel ou un bâtiment.
Voilà. Bien, merci beaucoup.
Merci, IA.
Oui, merci, IA. Les fermes hydroponiques verticales sont énergivores, mais ça convient, par exemple, dans des pays du Golfe où 85% des aliments sont importés et où l'eau douce est rare. Et par contre, l'accès aux énergies renouvelables est abondant. Ailleurs, une agriculture à faible impact en périphérie urbaine, même si elle est moins productive, serait plus appropriée. Donc, il faut quand même s'adapter à chaque milieu. On ne parle à Édimbourg, à moins d'un kilomètre de chez l'auteur de l'article. Il y a une ferme qui est une coopérative agroécologique qui a transformé 40 hectares d'anciens pâturages à moutons en périphérie de la ville, en un espace dynamique qui mélange maraîchage, jardins familiaux, agroforesterie. Donc, on associe les cultures aux arbres pour améliorer les sols et les rendements. Donc, il y a des vergers aussi, des zones humides, une prairie restaurée. C'est un des espaces les plus discrètement novateurs de la ville, on dit. Évidemment, cette ferme-là ne peut pas nourrir à elle seule la ville, mais la somme de petits gestes, bien, ça peut produire des résultats remarquables. À l'échelle mondiale, les petits agriculteurs produisent environ entre un tiers et la moitié des calories consommées Et ça, c'est sans recourir aux pratiques néfastes à rendements maximaux de l'agriculture industrielle. Quand on cultive à petite échelle, souvent, on est capable de moins avoir d'impact sur l'environnement. Donc, l'agroécologie pourrait transformer non seulement la provenance de notre alimentation, mais aussi notre alimentation, pardon, mais aussi notre rapport à la nature.
Donc, c'est une façon de rendre les villes un petit peu plus autosuffisantes sur le plan alimentaire, mais il y a encore des défis, là.
Oui, c'est ça. On nous dit en conclusion, l'agriculture urbaine à elle seule ne va pas suffire à nourrir 10 milliards de personnes, mais on ne peut pas non plus se permettre de l'ignorer. Il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, préserver les sols, enrayer la pollution, freiner le dérèglement climatique, protéger la biodiversité, notamment les pollinisateurs. Ça, c'est un autre sujet, mais vraiment important. Et on nous dit « Les limites de mon jardin sont l'horizon », écrivait Derek Jarman dans Modern Nature. « Chaque changement, aussi minime soit-il, élargit l'horizon de ce que nous croyons possible. »
Oh, ça finit en poésie.
Oui.
Merci. Non, alors, c'est un article que vous avez trouvé dans The Guardian qui date du 9 novembre 2025. C'est quand même assez récent.
Et si vous avez trouvé l'article original, le titre original, c'était « Could urban farming feed the world? »
Thank you very much. Ben, merci Isabelle. C'est là-dessus qu'on se dit au revoir. Puis on se retrouve, je l'espère bien, la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Bonne journée.
Semaine.
Les ressources actuelles ne sont pas assez nombreuses pour répondre aux besoins des aînés. D'ici 2035, 111 000 personnes âgées de plus risquent de ne pas avoir les services à domicile ou un milieu de vie adapté pour elles. L'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés sonne l'alarme et appelle les décideurs à agir avant de se heurter à un mur. Il s'agit d'un net déséquilibre entre la hausse de la demande et l'offre du réseau public, dénonce l'Alliance, qui représente 86 % de l'hébergement aux aînés au Québec, autant dans les soins à domicile qu'en CHSLD, en résidence privée pour aînés ou en ressources intermédiaires. Merci d'être là. La chronique de Julien Caillouette s'en vient et une entrevue avec Christian Bégin.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
On retrouve Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
La loi sur les langues officielles n'améliore pas le financement de l'éducation pour l'instant, c'est dans Franco-Presse.
Oui, parce que le comité permanent des langues officielles du Parlement canadien étudie en ce moment le continuum d'éducation en français en milieu minoritaire. Bon, ce que ça veut dire, là, c'est qu'on étudie comment les enfants peuvent étudier en français de la maternelle jusqu'à l'université. La semaine dernière, il y avait des représentants de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick qui sont allés au comité et qui ont rappelé qu'il y a un manque de reddition de comptes et de suivi des dépenses fédérales concernant ce qui est alloué au conseil scolaire francophone. Par exemple, en Colombie-Britannique, on affirme que le financement qui est reçu par les conseils scolaires de langue française s'élève à 6 millions de dollars, tandis que le fédéral donne 10 millions de dollars aux programmes d'immersion. Le conseil scolaire aussi avance qu'il n'y a aucune preuve que la province respecte son obligation d'égaler le financement fédéral pour l'éducation en français. Donc, on sait que le fédéral donne 6 millions de dollars, mais il n'arrive pas à voir si la province donne vraiment 6 millions de dollars aussi. Ce que le milieu de l'éducation demande depuis des années, c'est que les fonds fédéraux arrêtent de transiter par les provinces ou qu'il y ait une meilleure clause de reddition de compte pour que ce soit plus clair d'où vient le financement puis qu'on est sûr que ça se rend bien. Ce sera probablement difficile à mettre en œuvre parce que l'éducation, c'est quand même une compétence provinciale et les provinces y tiennent le mordicus. Puis historiquement, ils ont toujours résisté à l'inclusion de ce genre de clause. Là, ça a été un débat en 2024, pour quand le fédéral a voulu financer les garderies, on n'a pas pu avoir de clause très forte pour la francophonie. Par contre, sans action, les francophones craignent que le poids démographique continue de diminuer. Là, le Nouveau-Brunswick a fait cet avertissement-là devant le comité. Puis j'ajoute en dernier que le commissaire aux langues officielles, justement, hier, a déposé son rapport de mi-parcours pour le plan d'action sur les langues officielles. Puis, ben, dans ce rapport-là, il note le même problème là, de manque de reddition de comptes. Puis, il recommande de trouver une façon de mieux suivre les investissements en langues officielles par le fédéral.
On reste toujours dans le même domaine en parlant des langues, des places en garderie qui passent du français à l'anglais. Trois organismes portent plainte, c'est dans l'Acadie Nouvelle.
C'est trois associations francophones du Nouveau-Brunswick qui, oui, ont porté plainte à la fois auprès du commissaire aux langues officielles du Canada et de la province du Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a certaines garderies qui transforment les places destinées aux enfants francophones en places pour les enfants anglophones. Puis lorsque ces places-là sont transformées, ben la plupart du temps, il n'y a pas de nouvelles places créées pour les francophones ailleurs pour compenser, puis ça entraîne donc une diminution des services pour les francophones. Apparemment, selon les associations qui se plaignent, c'est un phénomène qui se produit régulièrement là, dans toute la province. Il existe quelques raisons pour ce phénomène-là. Premièrement, il y a une population anglophone qui grandit un peu plus rapidement, et puis il y a une demande plus importante pour les places en anglais en garderie. Il y a aussi des changements de personnel qui peuvent avoir lieu. Là, si une éducatrice francophone quitte une garderie puis qu'on n'en trouve pas d'autre, qu'elle est remplacée par une anglophone, peut-être que ça peut forcer à changer de place. De plus, il arrive que des garderies francophones accueillent des enfants anglophones et on leur parle en anglais dans ce temps-là, ce qui diminue un peu le service en français pour les autres élèves. L'objectif pour les organismes, c'est donc de protéger les places en français et de protéger la langue française des enfants et des familles. Le gouvernement provincial a été interpellé, puis de leur côté, ils affirment vouloir agir rapidement là-dessus, mais sans créer plus de barrières bureaucratiques. Par contre, quand même, une des solutions qui pourrait être mise en place, c'est de lier les licences d'exploitation des garderies à l'offre de en français pour celles qu'ils font.
Mm-hmm. Préoccupant quand même. Les francophones d'Ottawa enthousiastes et prudents après l'annonce du fonds des grands festivals. Alors, il y a de l'optimisme et aussi un peu de pessimisme ou de l'inquiétude en tout cas.
Oui, c'est déjà la nature un peu de la subvention. C'est un nouveau fonds, une petite initiative de la ville d'Ottawa pour financer des festivals, et puis là, ouvrez les guillemets, ayant le plus fort impact touristique et économique pour la ville. Fermez les guillemets. Le journal Le Droit a parlé à quelques organismes qui organisent des événements francophones, dont le Festival franco-ontarien, là, qui est un des plus gros festivals franco-ontariens, carrément en Ontario. De leur point de vue, c'est une bonne, c'est une possibilité de nouveau financement pour eux, puis c'est une excellente nouvelle. La ville précise, par contre, qu'il n'y aura pas de fonds là-dedans, c'est $1 million, là, et ça, il n'y aura pas de partie réservée spécifiquement pour les événements francophones ou des autres communautés culturelles. L'objectif, c'est vraiment de maximiser les impacts touristiques et économiques. Donc, Le Droit continue son investigation et on parle à d'autres intervenants comme le Musée au Parc de Vanier, qui, eux, organisent un festival des sucres à chaque printemps. Puis, eux, sont enthousiastes de voir cette nouvelle subvention-là, même s'ils ne sont pas certains que leur événement est assez gros pour se qualifier selon les critères. Il y a la même incertitude du côté de Théâtre Action, qui, eux, organisent des événements théâtraux ambulants. Là, ça a lieu à Ottawa une année sur deux actuellement, et ça touche un moins grand public, donc ils ne sont pas certains que ça va. Ils vont pouvoir en profiter non plus. Ce que la Ville dit, c'est que les fonds pour financer l'argent pour financer ce fonds-là va provenir de l'augmentation de 1 point de la taxe municipale sur l'hébergement. Une taxe que quand on loue un hôtel, une chambre d'hôtel à Ottawa, on a cette petite taxe-là à payer, donc elle va augmenter un tout petit peu.
Une bonne nouvelle, le projet de la Maison de la francophonie à Regina avance.
Début novembre, les participants au rendez-vous Francesco ont pu faire la première visite des potentiels locaux de la Maison de la francophonie de Regina. Donc, ce que c'est, ça, c'est une idée qui germe depuis 2021, puis c'est principalement mené par la Société historique francescoise. Ils veulent offrir un lieu de rassemblement pour les francophones d'Arigina. L'idée, c'est surtout d'avoir un nouveau lieu pour entreposer les archives de la Société historique, mais il y aurait aussi un incubateur d'entreprise, des bureaux, un café, une garderie et peut-être un studio de musique ou de danse. On veut créer aussi, on veut pas juste créer de la visibilité pour la francophonie au centre-ville d'Origina, mais on veut aussi contribuer à la revitalisation de ce secteur-là du centre-ville. Puis c'est pas tout le monde qui accueille l'idée avec enthousiasme. Il y a un avocat, Roger Lepage, qui lui trouve que le financement du projet manque un peu de transparence et croit que ce serait mieux d'établir ce genre de centre autour d'un pôle déjà existant pour la francophonie, exemple une école secondaire. Puis l'existence de la maison de la francophonie, de toute façon, c'est pas certain. Là, c'est pas un projet clé dans le béton, c'est une intention. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais on espère quand même, du moins les gens qui sont derrière le projet espèrent que ça pourra être lancé en 2026.
Ah oui, l'année prochaine, ça s'en vient quand même assez rapidement. Et on espère que ça se concrétise, évidemment. Finalement, dans l'aurore boréale, on parle aussi de francophonie.
Oui, parce qu'il y a eu des élections au Yukon au début novembre, puis c'est le gouvernement de Currie Dixon du Parti du Yukon qui a été élu. Il n'y a pas de grande inquiétude pour la francophonie. Ce n'est pas un gouvernement qui s'est montré opposé à la francophonie, tout au contraire. Mais il y a quand même quelques points que l'association franco-yukonaise veut surveiller. Pour eux, leur priorité, c'est l'enseignement du français au postsecondaire, l'immigration et la santé. Côté de la santé, ça va bien. Là, il y a une nouvelle loi sur l'Office de la santé qui a été créée il y a quelques années au Yukon. Puis M. Dixon a participé à l'élaboration de cette loi-là. Donc, on sait qu'il n'est pas contre et qu'ils ne vont pas y toucher pour l'instant. Cependant, M. Dixon ne prévoit pas réviser la loi sur l'Université du Yukon. Puis ça, c'est une des choses que l'association aurait aimé voir pour qu'il y ait plus de cours en français à l'université. Finalement, l'association aimerait également qu'il y ait une révision de la loi sur les langues qui existent au Yukon depuis 1988. Avec le temps, certaines choses dans cette loi-là ne sont plus d'actualité. Ça ne fonctionne plus aussi bien qu'on voudrait. Puis la plupart des derniers gouvernements ont seulement une vision à court terme, donc il n'y a pas eu d'amélioration substantielle. Donc, l'association aimerait qu'on révise cette loi-là en s'attaquant aux problèmes de fond qui règnent pour la francophonie au Yukon. Puis, dernier petit détail, je vous indique que lors de cette élection-là, il y a un premier député francophone qui a été élu à l'Assemblée législative du Yukon. Son nom, c'est Justin Ziegler.
Merci pour tout ça, Julien. Bonne semaine.
Merci à vous aussi.
Voyant la beauté dans les angles des créatures qui me ressemblent. Oh! Je vois tous des artistes quand on est hop, quand on se fait de la musique et que ça fait pop. Peux-tu tenir?
Claude Dubois, le premier cabaret des artistes présenté par Le Devoir au profit de la Fondation des artistes aura lieu au Théâtre Outremont très bientôt, le 3 décembre. Et j'en parle avec plaisir avec Christian Bégin, comédien, animateur, qui sera l'hôte de la soirée. Bonjour Christian Bégin.
Bon matin à vous.
Ça va bien?
Ça va très bien. Je suis sur la route vers Montréal présentement. Alors, tout se passe bien. Je pars de Kamouraska pour me rendre à Montréal.
Ah oui, en route vers Montréal. Les chemins sont beaux.
Absolument.
Tant mieux. Bien. Alors, bien, soyez prudents. Moi, ça m'inquiète un petit peu là, de vous savoir au volant.
Ah, tout va bien.
Oui.
Je suis en main libre. Tout va bien.
C'est parfait. Oui, oui. Alors, allons-y donc avec... qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter d'animer le cabaret des artistes, Christian Bégin?
Ça fait quelques fois que je m'implique auprès de la Fondation. J'ai été encanteur pour l'Encan l'an dernier. Puis, je suis dans des réflexions par rapport à mon métier assez profondes ces temps-ci. Je vais fêter les 40 ans de métier en 2026. 40 ans, c'est quand même beaucoup.
Je comprends.
Et c'est une trajectoire qui a traversé toutes sortes d'époques et toutes sortes de conditions. Puis j'ai connu, moi, à une certaine époque, une très grande précarité. Dans mes débuts particulièrement, puis même à certains moments plus ponctuels de ma vie. Puis, je me rends compte que la condition des artistes, de la majorité des artistes, est méconnue par les gens au Québec. On a une perception un peu distorsionnée de la réalité financière des artistes, puis aussi des impacts de leurs conditions socio-économiques sur leur santé, même mentale, sur le besoin même d'être des fois accompagné psychologiquement. Parce que ce qu'on voit à l'écran, ça nous donne l'impression que les artistes sont des gens qui n'ont pas de problèmes financiers ou qui n'ont pas besoin de soutien, parce que ce qu'on voit à l'écran brille, en fait.
Et bien sûr,
je fais partie, moi, de cette réalité-là. J'ai la chance de faire partie de ces artistes privilégiés qui manquent pas de travail sans être millionnaire. Ça, je tiens à le préciser parce que ça aussi, c'est une fausse perception, l'impression qu'on roule sur l'or. Mais il y a plus de 70-80% des membres de l'UDA qui vivent dans des conditions de précarité, qui peinent à payer leur loyer à chaque mois, qui ont besoin de soutien, des fois de façon ponctuelle parce qu'ils traversent une phase difficile. Et ça, les gens ne savent pas à quel point les besoins augmentent parce qu'on sait que le support à la culture est de plus en plus déficient. La culture traverse une grande crise en ce moment et ça a un impact réel et direct sur la vie des artistes.
Alors,
je me dis, ben, si moi je peux mettre à contribution mon propre rayonnement et ma propre condition de privilégié en ce moment, ben, je tiens à pouvoir le faire.
Il y a donc un travail à faire, un travail d'éducation, de sensibilisation, de conscientisation là, pour enlever ce genre de préjugés qui est très, très ancré chez le spectateur, oui. Chez l'auditeur.
Et qui crée même une espèce de... Parce qu'on a un rapport très bipolaire, et je dis pas ça par rapport à la maladie mentale, je parle en termes de polarité, par rapport à notre façon de percevoir les artistes au Québec. C'est comme on les aime, on dit qu'on aime nos artistes, en même temps, il y a toujours une espèce d'acrimonie devant les artistes quand les artistes demandent de l'aide ou du soutien parce qu'on nous dit qu'on est des pèteux de nuages, des mangeux de subventions, des profiteurs de système. système. Fait qu'il y a toujours une espèce de rapport amour-haine avec nos artistes qui fait en sorte que la réalité la plus prégnante est celle qui est la plus ignorée, en fait, parce que la réelle condition des artistes et de la grande majorité des artistes, c'est une condition de précarité.
Mm-hmm. Mais c'est presque un sujet tabou, on dirait. Hein? Les artistes qui sont dans l'ombre restent dans l'ombre et ceux qui sont dans la lumière ne parlent pas de ces conditions précaires pour la majorité des gens qui font le métier artistique ou qui essaient de le faire.
En tout cas, il y a un dialogue à ouvrir probablement entre nous, dans notre propre communauté, mais en même temps, il y a de plus en plus, je pense, un éveil à ça, puis un soutien. Je le vois juste aux membres qui participent à la diversité des membres qui participent au cabaret cette année.
Oui, une belle distribution.
Ouais, c'est une belle marquise quand même, disons-le. Il y a des invités assez exceptionnels. Ça va de Marie-Hélène Dubert, chanteuse, à Louis-José Houd,
humoriste. Jean-Martin Hossan, j'ai Michel
oui,
Barrette ici.
Hossan, exactement.
Alors, c'est un mélange ça, de chanteurs, chanteuses, comédiens, comédiennes. Qu'est-ce qui va se passer
oui,
sur cette scène-là?
C'est un spectacle de variété, hein, c'est un cabaret. Alors, le cabaret, c'est ça, hein, c'est cette grande diversité de numéros, des numéros chantés, des numéros d'humour. Moi-même qui va...
Vous commettre?
Je vais me commettre... Et je vais surtout assurer une certaine irrévérence dans mon animation, parce que moi j'aime dans les soirées bénéfices, parce qu'il faut dire aussi que c'est une soirée bénéfice, casser l'espèce d'image protocolaire qui fait que tout le monde se tient un peu les fesses serrées. Moi j'aime l'idée d'un cabaret. Pour moi un cabaret c'est quelque chose de où le jupon dépasse. Le cabaret, c'est quelque chose de dérangeant, d'irrévérencieux, pas seulement de divertissant, mais d'aussi de... Moi, je pense au cabaret allemand là, des années 30, puis j'aime cet esprit un peu délinquant du cabaret.
Alors, comment vous allez faire ça, faire dépasser votre jupon?
Je ne sais pas. C'est une soirée qui s'improvise, hein. C'est une soirée qui n'est pas répétée, il faut le savoir, c'est une soirée unique.
Mais il y a une mise en scène d'Olivier Aubin.
Oui, il y a une mise en scène de Olivier Aubin, mais il n'y a pas nécessairement de spectacle répété.
Okay.
C'est-à-dire que la mise en scène, c'est l'enveloppe qu'on va donner au spectacle, dans quel cadre ça va se produire, dans quel ordre les acteurs les participants, les artistes vont se produire sur scène. Mais le spectacle n'est pas répété en tant que tel. Il y aura une répétition pour les prises de son, pour les musiciens. Mais le spectacle est un événement unique. Fait que moi, je vais me laisser porter par la soirée en ayant pour mandat personnel de m'assurer que le jupon dépasse, quoi.
Il y aura du plaisir, certainement, et il y aura aussi des moments où vous allez parler de la condition des artistes qui sont dans le besoin, des artistes
bien
qui ont
sûr.
Des problèmes de santé mentale, qui se sentent exclus. Alors, comment vous allez faire pour marier l'espèce de message qui n'est pas nécessairement joyeux à cet esprit festif de cabaret?
Ben moi, je dis que c'est ça la vie. À la vie, c'est une constante oscillation entre la tragédie et la comédie. La vraie vie, c'est comme ça. On n'est pas dans un chemin, on n'est pas dans un long fleuve tranquille. Alors, le théâtre, les arts de la scène, c'est toujours le reflet de ce qu'est la vie. Fait que moi, j'ai pas de difficulté à imaginer qu'on puisse à la fois se divertir et à la fois se sentir interpellé par des réalités qui sont... plus confrontantes ou qui nous amènent dans des zones d'émotions qui sont plus graves, mettons, parce que la vraie vie, c'est ça. Et le cabaret, les arts de la scène, c'est un reflet de ce que c'est la vraie vie.
Et Christian Bégin, c'est vrai qu'il y aura des invités surprises?
Oui.
Vous s'en direz pas plus, j'imagine.
Ben, une surprise, c'est une surprise.
Ben oui, une surprise, c'est une surprise, oui. Et pour vous, Christian, qu'est-ce qui fait la richesse de la création artistique québécoise d'aujourd'hui?
C'est sa jeunesse, en fait, historiquement. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne ploie pas sous le poids des traditions qui nous amènent à être capables d'une grande, grande, grande créativité. On n'est pas balisé par le poids des traditions. parce qu'on est une culture relativement jeune. Il y a aussi, et ça c'est un piège en même temps, mais c'est aussi une réalité, le fait qu'on ait peu de moyens nous oblige aussi à une plus grande créativité. Et j'appelle pas au statu quo dans ça du tout. Mm-hmm. Parce que avoir des moyens nous permet de se déployer autrement, mais notre réalité a voulu que les contraintes qui nous sont imposées nous ont forcés à une très, très grande...
Oh.
À l'échelle mondiale, est-ce que je suis toujours là?
Oui, là, on a eu peur quelques secondes, mais là, ça va, oui.
Si on se compare à ce qui se fait à l'échelle mondiale, on n'a rien envié à personne. Et souvent même, on est regardé avec beaucoup d'admiration. Moi, je regarde ce qui se fait en cinéma, en théâtre, par rapport à ce que j'ai vu partout dans le monde. Souvent, on parle de notre réalité québécoise comme étant quelque chose d'absolument singulier et d'unique, même par rapport à la petite population, au bassin presque anecdotique qu'on représente à l'échelle mondiale. C'est assez fou ce qui se passe ici, quand même.
Oui.
Même si on peut se questionner et revendiquer et s'indigner de l'importance qu'on accorde à la culture au Québec. Je trouve qu'elle est très, très, très vivante. Pour reprendre les propos, mettons, d'une Lou-Adrienne Cassidy, on n'arrête pas de craindre pour sa vitalité. Elle n'est pas... Elle est très, très vivante, cette culture-là. C'est pas sa vivalité qui est menacée, c'est sa pérennité, en fait. Ouais, c'est ce que je crois.
Pour les personnes qui hésitent encore à se présenter au cabaret le 3 décembre, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de venir célébrer les artistes et de mieux les comprendre?
Bien, d'une part, ça va être une soirée extrêmement divertissante. Là. Moi, je pense que ça va être un bon show. La marquise est très impressionnante. Fait que je me dis, ça peut pas être mauvais avec les artistes qu'on a. Fait que ne serait-ce que pour le plaisir de se divertir, déjà... Ça, en enlevant complètement la dimension philanthropique de la soirée, ça va être un très bon show. Ensuite, c'est une façon concrète de souligner notre soutien à ceux qui font la culture. Ceux qui font la culture ne sont pas seulement ceux qu'on voit à la télé ou au théâtre. Ceux qui font la culture sont aussi ceux qui la vivent dans l'ombre, dans une façon plus moins rayonnante, plus anonyme, mais tout aussi nécessaire, moi, je crois. Fait que c'est une belle façon de joindre l'utile à l'agréable, de poser un geste pour soi en passant une belle soirée, puis en posant un geste pour l'autre en achetant un billet.
Une vie sans culture, une vie sans artiste, ça donne quoi?
La barbarie. La culture nous éloigne de la barbarie. La culture nous fédère. La culture appelle au meilleur de nous-mêmes. Une société sans culture, c'est une société barbare. Et on a à regarder ce qu'on a qu'à regarder. Ce qui se passe et le regard, mettons, que jette une administration trumpiste par rapport à la culture, et on sombre dans la barbarie. La culture nous préserve de la barbarie. Je tiens ça, c'est pas moi qui le dis. Je pense que c'est Denis Arcand un jour, je sais pas s'il citait quelqu'un, mais moi, c'est quelque chose que je nomme souvent. La culture nous éloigne de la barbarie, j'en suis convaincu.
Et nous aussi, on en est convaincus. Alors, pour avoir des billets, c'est simple. Vous allez sur le site de la Fondation des artistes.ca. Et je me permets de vous féliciter un peu à l'avance pour vos 40 ans de vie d'artiste.
Ah, merci, c'est gentil. Ouais, c'est quand même énorme dans une vie.
Oui, vous avez commencé jeune, finalement, dans la vingtaine.
Hop! Oui, c'est ça. Oui. J'ai quand même 63, là.
Ben oui, mais vous êtes un éternel pigiste.
Oui, voilà, je suis un éternel pigiste, absolument.
Oui, j'ai vu justement votre plus récent spectacle avec la belle gang des éternels pigistes flambant nus.
Oui.
Et vous avez l'air tellement avoir du plaisir, comme un jeune débutant.
Oui, bien, jouer ensemble depuis 30 ans, c'est un grand, grand, grand privilège qui satisfait des liens et une complicité qui, je crois, se voit sur scène, effectivement.
Ah oui, c'est un grand plaisir. Alors, merci de nous avoir parlé ce matin pour nous inviter au tout premier cabaret des artistes de la Fondation des artistes qui se déroulera au Théâtre Outremont, je le rappelle, le 3 décembre. Bien, bonne route et puis à la prochaine, Christian Bégin.
Merci du temps que vous nous avez accordé. Passez une bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Vous écoutez Au quotidien, on est ensemble encore une bonne demi-heure. À venir, une chronique de Chantal Lavoie qui nous parle de musique classique aujourd'hui. À l'honneur, surtout les suggestions de Chantal de concerts de Noël. Il y en a tout plein.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis. La magie de Noël qui opère. Vous avez certainement reconnu cet air de Tchaïkovski, Casse-Noisette. C'est tellement magnifique. Beau choix, Chantal Lavoie, qui est avec nous à sa chronique musique classique.
C'était l'ouverture de Casse-Noisette, là, quand les gens arrivent, c'est ça, donc sur la scène. Et puis, voilà. Alors, c'est magique, bien sûr. On pense toujours à Casse-Noisette, mais il y en a tellement de concerts de Noël. Et puis, tu sais que pour ce qui est de Casse-Noisette, oui, ça va être présenté jusqu'au 30 décembre, pardon. Et puis,
ça commence quand?
Ça commence le 15. Ça commençait le 15 décembre.
Le 15 décembre. OK, ça commençait ou ça va
non,
commencer?
Non, ça va commencer.
Oui, d'accord.
Oui.
Okay.
Ça commence le 15 décembre. Alors, finalement, on a... et puis, ce qui est intéressant, c'est que le 16 décembre, il y aura un concert gratuit pour tous les enfants. C'est-à-dire que, bien évidemment, les enfants qui ont été sélectionnés, soit par les écoles et tout, parce qu'en fait, il y a des dons qu'on peut faire, justement, au Grand Ballet pour permettre à ces jeunes-là d'avoir un concert gratuit, d'assister à une représentation de Casse-Noisette. Alors, vraiment, c'est quelque chose, un beau geste.
Je comprends.
Et puis, en même temps, ça aide aussi la production, les costumes et tout.
Alors Chantal, vous êtes ici... C'était drôle parce que dans votre intro, vous avez écrit « Dans un mois, Noël sera derrière nous ». Êtes-vous contente de ça, vous, là?
Non, pas du tout. Je voulais dire que mon souper de Noël, comme la plupart des gens aussi, juste parce qu'on se prépare tranquillement,
oui,
mentalement.
Oui.
Alors, on a...
Lentement, mais sûrement.
C'est ça. Donc, ce sera déjà le 26.
Le 26, le lendemain de
dans
Noël.
Dans un mois, jour pour jour.
Où souvent, on passe la journée en pyjama.
Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, exactement. C'est à moins qu'on aille faire les achats là, de
ah oui,
du
le
fameux
Boxing Day.
Ben voilà. Ouais. Alors, c'est le bonheur, là, présentement, de retrouver les fameux concerts avec les grands classiques, que ce soit les chants traditionnels français, les airs issus de la tradition britannique aussi. C'est magnifique. C'est vraiment toute une nostalgie hein, qui revient à chaque fois. Et puis, bon, que ce soit de l'époque baroque jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a des compositeurs récents aussi qui composent pour des chœurs et tout. Alors, on pense à John Rutter qui en a fait beaucoup. Alors, vraiment, de nombreux compositeurs qui ont été inspirés par cette période de l'année. Alors, que ce soit ben, pour les mélomanes, Noël ne se célèbre pas sans un certain nombre de chefs-d'œuvre. La Ceremony of Carols de Benjamin Britten, hein, qui a écrit ça à 28 ans. La Messe de minuit de Charpentier. Le fameux Messie de Handel. Et bien sûr, l'oratorio aussi de Noël de Jean-Sébastien Bach. On va en parler. On a parlé du Casse-Noisette, bien sûr. Il y a Irving Berlin qui en a composé aussi tellement. Hein, le White Christmas. Et puis, voilà. Alors, plein des immortels. Sibelius, lui, évidemment, compositeur finlandais qui aussi en a composé beaucoup, lui. Et puis, tu sais, les compositeurs, des fois, lui, il faisait des compositions pour ses invités, enfin, pour sa famille. Il composait pour sa famille.
Sibelius?
Oui, c'est ça, Sibelius. Et puis, tu sais, des fois, pour des musiciens, on pense à ça, puis on se dit, eux autres, ils se faisaient très sollicités dans le temps de Noël. Tu nous jouerais-tu une belle pièce, n'est-ce pas, de Noël, en famille?
Mais comme on fait aussi quand on a un musicien, une musicienne dans la famille, là, un petit heure de piano,
Là. Alors, tous les pays ont leur répertoire, et puis, bien, là, on va parler, effectivement, de chaque année, on aime aller entendre le fameux Messie de Handel, toujours fort apprécié. Et Hélène, par contre, avant de parler du Messie, parce qu'il y en a plusieurs qui offrent le Messie à chaque année, on va parler juste du Festival Bach.
Le Festival international Bach Montréal qui
est
en cours.
Qui est en cours. Ça aussi, c'est un bon prélude hein, à la période des
fêtes. Mais on peut faire une sorte de mix en écoutant l'oratorio de Noël de Bach.
Oui, bien c'est ça.
Un petit extrait.
Oui, on va écouter ça, tiens.
Mais on
coupe les cœurs, c'est magnifique. Hein? Alors, l'oratorio, il y a quand même... c'est l'Orchestre métropolitain qui va présenter l'oratorio, on y reviendra. Et nos grands orchestres qui alternent finalement entre le Messie et parfois l'oratorio. Mm-hmm. Alors, bon, je voulais juste dire que le Festival Bach, là, c'est jusqu'au 7 décembre en passant. Alors, c'est ça, puis il y a de beaux concerts là, à venir. Exemple, 5 clavecins pour Luc Beauséjour avec un programme Bach et les illustres mentors. 5 clavecins baroques qui sont réunis sur scène. Alors, c'est le 3 décembre. Il y a le concert de clôture le 7 décembre, la Passion selon Saint Jean de Bach. Alors, voilà.
Et
alors,
l'oratorio, parlons, lui?
L'oratorio, bien, c'est ça. Là, l'oratorio, on va avoir... en fait, j'y reviens. C'est l'ensemble Caprice et Mathias Marte qui vont présenter, en collaboration avec le Festival Classica, à la fois le Messie et l'oratorio. Évidemment, ce sont des extraits. On comprend bien que ce ne sera pas les deux programmes en entier. On en aurait pour toute la journée. Mais alors, eux vont présenter ça à la fois à Longueuil et à Boucherville, mais aussi à la Maison symphonique le 4 décembre à 19h30. Alors, l'oratorio de Noël, hein, ça raconte les premiers jours de la vie du Christ. Alors, vraiment, c'est magnifique. Et puis, qu'est-ce que tu voulais dire?
Mais c'est parce que dans mes notes, j'avais l'oratorio de Noël par l'Orchestre métropolitain, la Basilique Notre-Dame.
Oui, exactement. C'est ça. C'est parce qu'il y en a plusieurs qui offrent ça. Alors là, il y a l'oratorio à la Basilique aussi, avec, bien sûr, dirigé par Yannick Nézet-Séguin. On sait qu'ils nous ont servi le Messie à la Basilique. Cette année, c'est l'oratorio. Alors, évidemment, donc, un excellent
Avez-vous
programme.
Avez-vous la date? Je ne veux pas vous piéger.
Ça veut dire que j'y vais, parce que j'y allais par ordre. Et puis là, on est dans le désordre. Alors, c'est le 17 décembre.
OK. Mais j'essayais, moi, d'être dans l'ordre de l'oratorio de Noël. C'est pour ça là, que
je voulais
pas
c'est le 17 décembre
mêler.
À la Basilique. Alors, avec Julie Bouliane, mezzo-soprano, Frédéric Antoun, ténor et autres.
Parfait. Ouais. Alors, continue.
Alors, c'est ça. Donc, le Messie, évidemment... Écoute, je peux revenir au Festival Bach parce qu'il y a le off-Bach, puis il y a des concerts, parce que j'aime ça parler des concerts gratuits. Il y a des concerts gratuits dans ce volet, avec des conférences aussi. Alors, c'est intéressant pour les gens. Alors, petite parenthèse
Profitons-en de ce Festival international Bach Montréal qui est en cours.
C'est ça. Le Messie, l'Orchestre classique de Montréal, je pense que vous auriez aimé recevoir l'Orchestre classique justement pour en parler. Alors, ce sera le 11 décembre.
Mais je vous arrête tout de suite, Chantal, parce que lundi, c'est Denis-Martin Chabot qui sera animer au quotidien et qui va recevoir le directeur, le chef d'orchestre du Messie.
André Fer, qui est le nouveau directeur musical depuis l'automne, qui, évidemment, on sait que c'est Boris Dubrotte qui a été le chef directeur artistique pendant, en fait, de 2005 à 2022 jusqu'à sa mort un peu tragique. Ouais. Oui, c'est ça, il a eu un accident de voiture. Et puis, alors c'est ça. Donc, c'est lui qui est le nouveau chef. Alors, vraiment un jeune très dynamique et tout. Alors ça va être donc présenté à la crypte de l'oratoire Saint-Joseph. Alors, un moment magnifique avec, évidemment, les filles de Lille, les chantres, musiciens, enfin, bref, je vous passe les détails. Et puis après ça, c'est ça, il y avait, je vous parlais de l'ensemble Caprice en collaboration avec Classica, ça c'était la maison symphonique. Il y a évidemment Yannick Nézet-Séguin et son orchestre métropolitain. Il y a, ça c'est pour l'oratorio, je m'excuse. Et le Messie aussi sera servi par l'Harmonie des Saisons. Ça c'est un ensemble vocal et instrumental sur instruments d'époque qui est implanté dans les cantons de l'Est sous la direction artistique de Mélisande Corriveau. Alors ça c'est le Messie en tournée parce qu'il y a plusieurs dates et vendredi 12 décembre à 19h30, ce sera au Théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny, samedi 13 décembre à l'abbaye de Saint-Benoît. Alors voilà, ne pas manquer.
Le Messie en tournée, je trouve ça drôle.
Le Messie en tournée, voilà, il s'en va, propager oui, la grande nouvelle.
Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir. Studio de musique ancienne, le SMAM, Noël éternel, ça c'est vraiment un ensemble dédié à la musique ancienne, musique de la Renaissance, musique baroque et tout. Alors c'est toujours de magnifiques programmes. Le 4 décembre à l'église Saint-Léon de Westmount. Alors, on célèbre la magie de Noël avec quelques-uns des plus beaux airs traditionnels allemands, des chefs-d'œuvre choraux de Jean-Sébastien Bach et puis des grands classiques comme Sainte Nuit, Mon beau sapin, etc., des mélodies intemporelles.
Celles dont voilà. On ne se lance pas. Puis, cette église à Westmount, est-ce que vous êtes déjà allé?
Oui.
Est-ce que c'est...
Bien, c'est assez grand.
C'est une belle église, un bel endroit?
C'est-à-dire que c'est un... Oui, bien, les églises, c'est toujours quand même charmant.
Oui, mais il y en a qui sont plus majestueuses que d'autres.
Oui, bien, c'est ça. C'est-à-dire que, honnêtement, je me souviens pas... Je suis déjà allée, c'est-à-dire que je me souviens pas si pendant la période des fêtes, là, c'est très, très illuminé. Je suppose que oui.
Oui, j'imagine.
Alors, parce que ça moi, quand j'y étais, c'était un petit peu plus sombre. Mais encore là, c'est pas une... Non, c'est une très belle
surtout
église.
Surtout dans le camp de Noël, j'imagine qu'on va sortir un peu les lumières.
Alors, avec le consort Laurentien. Et puis, c'est des prix plus abordable des fois dans avec ces petits ensembles. Ben, c'est pas des petits ensembles, mais quand même, c'est pas des grands, grands orchestres là, à la Maison symphonique. Mm-hmm. Donc, des prix beaucoup plus abordables.
Accessibles.
Bon. Puis pour les 34 ans et moins, notamment. Alors, et je reviens à l'OSM parce qu'il y a évidemment le traditionnel conte de Fred Pellerin. Il faudrait pas manquer ça quand même. Je sais qu'il y a une diffusion à la télé, c'est sûr. Bon, il y a plusieurs dates de prévues aussi à la radio et tout, mais quand même, ça n'enlève pas la
d'être
magie
dans la salle.
D'être dans la salle avec Fred Pellerin et Maestro Nagano. Et ils ont quelque chose en commun là, de très fort.
Alors,
là.
Ils reviennent cette année?
Ils reviennent cette année.
Avec un conte original?
Oui, mais c'est ça, avec, je pense qu'il y a 5 concerts au total. Et dépêchez-vous, là, parce que je pense que les billets, je ne suis pas sûre.
Oui, ça s'envole vite.
Oh, ça s'envole vite. Alors, très, très populaire. On retourne à Saint-Élie de Caxton avec tous les personnages de Fred Pellerin. Alors ça, c'est à ne pas manquer, évidemment. Bon, il y a les Coralies à la Chapelle Notre-Dame du Bon Secours, 24e édition. Ça, c'est sous contribution volontaire, Hélène. Et puis...
Elle applaudit déjà.
Je sais. Puis, tu sais qu'on n'a pas... j'aurais aimé ça entendre le Messie, évidemment, mais on aura peut-être la chance de l'entendre dans les prochaines minutes. On a-tu le temps de se faire une petite pause?
Ben oui, une petite pause, okay. Messie, pourquoi
parce
pas?
Parce que je vous parle après ça des Coralies.
Parfait. Okay? Je l'ai déjà chanté, moi, dans ma chorale Allegro, que je salue au passage.
Oui, hein, toi, c'est vrai, hein, tu chantes dans une chorale. Alors, c'est
je
tellement
chantais dans une chorale.
Je me demande si je l'ai déjà fait, moi aussi, dans mon jeune temps. Mais en tout cas, chose certaine, c'est magique. Je ne voulais pas l'oublier parce que, tu sais, on a préparé l'extrait. C'est tellement, c'est envoûtant, hein, cette musique-là. Donc, les Coralies, 24e édition, Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, ça, c'était la petite église dans le Vieux-Montréal. Alors, contribution volontaire.
Charmant. charmante église.
Charmante église, ça vaut la peine. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de programmes différents. Là, il y a plusieurs dates. Hein. C'est surtout les fins de semaine, comme le 6, 7 décembre, 13, 14, 20, 21 décembre, de 13h30. Il y en a à 13h30 et 15h. En tout cas, c'est sur la rue Saint-Paul. Alors, il y a un concert de clôture, là, Noël à Bon Secours. En tout cas, c'est vraiment, il faut aller voir.
Puis, et le Vieux-Montréal, c'est toujours agréable de se promener. On n'y va pas en auto, là.
Exactement.
Sinon, on se stationne plus loin.
Et le concert de clôture, c'est le 21 décembre avec les Voix Ferrées, un ensemble vocal qui est caractérisé par l'accessibilité, l'engagement de ses membres et par un fonctionnement fondé sur leur implication responsable dans une démocratie participative. C'est pas beau, ça?
Et j'en profite pour aussi parler des chorales. Il y a plein de chorales qui offrent des concerts.
Écoute, on pouvait pas en faire la liste exhaustive,
non, parce
bien
que
sûr.
Vous seriez là jusqu'à demain matin.
Oui. Alors, on reparle effectivement. Je m'excuse pour le Casse-Noisette. C'est du 12 au 30 décembre en passant. Hein. Je suis mes notes. Donc,
alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. Chantal, le Noël de Charlie Brown, là, il faut en parler.
Exactement.
Là.
D'abord, il y a... mais le problème... Hélène, c'est que, oui, il y en a à la Salle Bourgie. Il y en a aussi, les concerts sous les chandelles, concerts Candlelight. Eux autres, ils l'offrent. Mais
le Noël de Charlie Brown?
Oui, exactement. Ouais, okay. Mais évidemment, eux autres, c'est une... Tu sais, il y a les concerts sous les chandelles. Ça, c'est québécois. Candlelight, les concerts Candlelight...
C'est
deux producteurs différents. Alors,
mais le même concept.
Mais c'est le même concept. On offre différents concepts de concerts là, à travers toute l'année, mais évidemment pendant le temps des fêtes. Alors,
éclairé à la chandelle seulement.
C'est ça, exactement. Donc, concert sous les chandelles, ça, c'est québécois. Concert féerique, Casse-Noisette et les plus beaux concerts, les plus beaux classiques de Noël, voilà. Alors, il y a plusieurs dates. Hein. Il y a Granby, Saint-Eustache, Sainte-Rose-de-Lima, Sainte-Rose. Alors, il y en a pour, évidemment,
Tout le monde. Ou presque.
Concert Candlelight à Montréal aussi. Des lieux inusités comme le 9e à Montréal, au Centre Eaton, mm-hmm. c'est particulier. Hein. Alors,
qui vient
aussi...
de rouvrir. Bien, pas qui vient. Ça fait quand même quelque temps.
Oui,
là, que
exactement. Donc, eux autres,
accéder
ils l'ont.
À la salle à manger. Puis, il y a des salles, justement, où il y a des événements privés.
Tout à fait.
Et des concerts.
Et puis, le Noël de Charlie Brown, eux autres, ils l'offrent. Mais comme je dis, ça, c'est tellement... Ça se remplit tellement vite. Je me demande s'il y a des billets encore. Mais je vous le dis, préparez-vous pour l'année prochaine. Il y a aussi le Noël de Charlie Brown à Saint-Lambert par le Conservatoire de musique de la Montérégie. Ils vont le faire aussi à la 5e salle de la Place des Arts, mais c'est complet.
Ah, voilà. Bon. Alors, et on puis, va se rabattre sur l'album, si je comprends bien. C'est complet partout.
Exactement. Mais ça, c'est parce que je veux vous dire que l'année prochaine, prenez-vous d'avance.
Ouais.
Les Violons du Roi, oui, au Palais Montcalm à Québec.
Elle en perd ses bijoux.
J'en perds mes bijoux.
Alors, il reste plus de temps. Oui. On finit avec le bon vent. Qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus?
Alors, puis à l'église Saint-Andrew et Saint-Paul, allez voir la programmation parce que ça, c'est la petite église presbytérienne devant le Musée des Beaux-Arts. Il ne faut absolument pas manquer tous les événements en lien avec ça. Ça vaut la peine. Alors, on se laisse avec Alchemia. Ça, c'est à la Maison de la culture Marie-Huguet. Donc, des billets, il faut vous procurer des billets, mais c'est gratuit. Alors, ça, c'est...
Des laissez-passer, donc.
Oui, des laissez-passer. Alors, c'est Alchemia, ensemble vocal aussi, donc a cappella. Et je vous laisse avec V'là le bon vent.
J'ai envie de vous souhaiter un joyeux Noël. Avoir su, je vous serais invité la semaine prochaine puis la semaine d'après, parce que là, c'est comme une chronique qui en contient trois.
Exact.
Chantal, voilà. La généreuse.
On
merci.
Saura pour l'année prochaine.
La mère Noël.
Le bon vent, belle jolie vent, le bon vent, ma vie m'amène, le bon vent.
Fini ou pas?
Ben oui, c'est qu'ils discutent à la fin.
Et ça tourne. Alors, c'était l'ensemble Alchimia, très belle version de V'là le bon vent. C'était suggéré par notre chroniqueuse musique classique, Chantal Lavoie. Et si vous voulez entendre l'ensemble, l'ensemble sera en concert le dimanche 30 novembre à la Maison de la culture Marie-Huguet. Le coroner déplore le parcours du combattant d'un homme en fin de vie. C'est dans la presse d'aujourd'hui, des plaies de lit apparues ou aggravées par des séjours à l'hôpital, une perte de confiance totale envers les équipes de soins et après un parcours du combattant, l'aide médicale à mourir. La triste histoire de Normand Meunier, un camionneur paralysé qui est mort le 29 mars 2024 à l'âge de 66 ans. Soulève des questionnements importants concernant la prise en charge hospitalière, conclut le coroner Dave Kimpton dans son rapport publié mardi. Le coroner a fait 31 recommandations visant à peu près tous les professionnels côtoyés par M. Meunier dans les derniers mois de sa vie. Il note entre autres qu'on a mal évalué sa condition, qu'il n'a pas eu accès à des lits adaptés et que la communication entre les différents professionnels était déficiente. Le cauchemar de Normand Meunier commence en janvier 2022 lorsqu'on lui diagnostique une perte de motricité des quatre membres, appelée parésie, puis une lésion de la moelle épinière qui lui fait perdre toute sensibilité depuis le haut des épaules jusqu'aux orteils. Il était auparavant suivi pour de nombreux problèmes de santé, notamment un diabète de type 2, de l'obésité, de l'apnée du sommeil et une maladie cardiaque. Il est opéré à l'hôpital du Sacré-Cœur en février 2022 et contracte en plus la COVID-19 lors de son séjour. Son état, malgré l'intervention, s'aggrave et d'autres maux s'ajoutent. Sa perte de sensibilité est centrale pour la suite des événements. Elle représentait un risque considérable car elle l'exposait à des fractures, à des brûlures ou à des plaies sans qu'il puisse s'en apercevoir, écrit le coroner. De plus, son incapacité à se mobiliser l'empêchait d'effectuer l'inspection visuelle de sa peau. Après l'opération, il est envoyé en réadaptation dans différentes unités où on lui diagnostique dès son arrivée plusieurs plaies de lit, des plaies de siège. Il obtient son congé en décembre, mais des complications, notamment causées par ces plaies de lit, le ramènent à l'hôpital durant tout le mois de janvier 2023. Il sera de retour chez lui à la fin de ce mois, avec un suivi à domicile du CLSC et de l'hôpital du Sacré-Cœur. L'adaptation à cette nouvelle vie est exigeante pour M. Meunier et sa conjointe, rapporte le coroner. C'est la conjointe qui s'occupe de l'essentiel des soins et de la surveillance. Le matelas motorisé qui avait été recommandé est trop coûteux pour l'aide gouvernementale disponible et ne sera jamais livré. C'est surtout un séjour de 11 jours à l'hôpital de Saint-Jérôme en janvier 2024 qui est considéré comme particulièrement problématique par le coroner. M. Meunier demeure alors 5 jours à l'urgence sur une civière sans surface thérapeutique adaptée en raison de la surcapacité hospitalière. Cette période aggrave significativement ses plaies de pression. Le 30 janvier 2024, au retour à domicile, les infirmières auxiliaires constatent une détérioration majeure. Il revient à l'hôpital de Saint-Jérôme le 22 février. Sa conjointe décide alors d'embaucher un préposé aux bénéficiaires privés. Le lien thérapeutique entre la conjointe de M. Meunier et les équipes de soins de l'hôpital s'est définitivement rompu, écrit le coroner. Celle-ci, en colère et en détresse, s'est vue placée dans le rôle d'adversaire aux professionnels soignants lors de l'hospitalisation du 22 février au 5 mars 2024, alors qu'une intervention de la sécurité est demandée dès l'arrivée à l'urgence. C'est un extrait du rapport du coroner. Finalement, sans espoir de guérison, Normand Meunier demande le 4 mars 2024 l'aide médicale à mourir. Il l'obtient et meurt chez lui le 29 mars, entouré de ses proches et d'intervenants du CLSC. Le coroner Kimpton le rappelle d'entrée de jeu. Son rapport n'a nullement pour objectif de se prononcer sur la responsabilité d'une personne, ni de rechercher des coupables. Ce qu'il constate, c'est que le corps d'un homme aux prises avec des lésions à la moelle épinière parle un langage différent et que le personnel soignant doit apprendre à le décoder. Il estime que la conjointe de M. Meunier, Sylvie Brosseau, a agi comme une véritable guerrière dans un parcours du combattant. Il estime qu'environ 86 000 personnes au Canada vivent avec des lésions à la moelle épinière. L'histoire de Normand Meunier permet aussi de mettre en lumière le manque d'adaptation, de cohérence, de connaissances et de fluidité au sein des services hospitaliers accueillant cette clientèle. Alors, c'est un texte que j'ai trouvé dans la presse d'aujourd'hui. On en parle un petit peu partout. On a commencé à en parler hier à propos là, de ce rapport du coroner qui déplore le parcours du combattant d'un homme en fin de vie. Texte de Karim Benassier qu'on peut lire dans la presse plus de cette journée du... Je cherche la date... Je m'excuse.
26.
On est le 26 novembre 2025. Les Québécois peuvent espérer un Noël blanc, voire un hiver d'antan, selon les prévisions de Météo Média. Au grand bonheur des skieurs et des amateurs de sports d'hiver, Météo Média prédit un hiver enneigé pour une bonne partie du Québec et de l'Ontario. On prévoit davantage de précipitations que la normale et celles-ci vont être en majorité sous forme de neige, a commenté André Monette, chef du service météorologique à Météo Média, en entrevue. Avec la presse canadienne, c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri d'un redoux extraordinaire le 23 décembre qui ferait qu'on perdrait de la neige. Mais en général, notre niveau de confiance pour avoir un Noël blanc est assez élevé, a ajouté le météorologue. C'est sûr qu'entre la neige et la pluie verglaçante, on choisit la neige. Merci beaucoup d'avoir été là en cette journée plutôt grise. On prévoit pas de neige, mais de la pluie. Alors, outillez-vous si vous avez à sortir. Merci Mathieu Tessier en régie. Merci à toutes, tous ceux et celles qui ont participé à cette émission. Et merci surtout à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve, je l'espère, demain à compter de 9h30. Ici Hélène Denis. À bientôt.